Le procès Meira a fait ressurgir dans les consciences la phrase terrible que le terroriste a lancée aux policiers avant de mourir. « La mort, je l'aime autant que vous aimez la vie ». Cette sacralisation de la mort, cette inversion des valeurs, résume peut-être à elle toute seule l'impuissance de l'Occident et l'impasse dans laquelle il se trouve face au djihadisme. Psychologues, sociologues, historiens des religions s'efforcent bien entendu de comprendre les soubassements de ce déferlement de haine. Et bien aujourd'hui, c'est au tour de la philosophie de s'emparer du problème avec ce livre « Djihadisme, le retour du sacrifice » de Jacob Rogozinski. Bonjour Jacob Rogozinski.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de philosophie à l'université de Strasbourg et dans ce livre, vous commencez tout d'abord par démonter un certain nombre de poncifs, d'expressions qui circulent au sujet du djihadisme et que l'on emploie, selon vous, à tort. Alors ce que je propose de faire, c'est d'en prendre quelques-uns, d'en piocher quelques-uns, et vous allez nous dire en quoi ils sont erronés.
Allons-y, je vous écoute.
On dit par exemple qu'avec le djihadisme, on assiste à un retour du religieux.
Oui, alors pour que quelque chose puisse faire retour, ça implique qu'il soit déjà sorti. Alors s'il y a retour du religieux, ça signifierait qu'on est déjà sorti du religieux. Alors est-ce que c'est bien certain? C'est une question qu'on peut se poser, c'est une question que je pose dans le livre. C'est une question difficile. Mais bon, si on considère par exemple les grandes idéologies, comme le fascisme, le nazisme, le stalinisme, qui ont traversé et ensanglanté le XXe siècle, on peut aussi les considérer comme des sortes de religions, comme des religions séculières. Ont des religions très particulières, mais qui ont des aspects religieux. Donc si on admet cette hypothèse, et c'est une hypothèse qui me paraît solide, à ce moment-là, on ne serait pas sorti du religieux, il n'y aurait pas de retour du religieux, on n'assisterait qu'à des mutations internes au champ du religieux.
Donc ce serait une sorte de religion athée, le communisme, par
exemple. Tout à fait, bien sûr. Il suffit de voir la manière dont Staline ou Mao ont été quasiment divinisés de leur vivant, adorés par des fidèles... Donc c'est un type de religion, une religion terrifiante certainement, mais une religion.
Alors deuxième poncif, on entend souvent dire qu'on assiste actuellement à un choc des civilisations. Ça aussi vous dites que c'est faux.
Oui, je pense que c'est faux, parce que d'abord parce que je pense que l'islam profondément appartient à la civilisation occidentale prise au sens large. C'est-à-dire si on refuse de réduire l'Occident à l'Occident chrétien, si on pense Occident comme cette civilisation dont l'épicentre est la Méditerranée et qui s'est développée pendant des siècles, bon, l'islam appartient à l'Occident. L'islam est monothéiste comme le judaïsme et le christianisme. L'islam intellectuellement a été structuré par la philosophie grecque. Donc l'islam fait partie de la famille. Hein, ce sont des petits frères, ce sont les frères.
Donc c'est plutôt une ligne de partage à l'intérieur d'une même civilisation.
Tout à fait. C'est des lignes de fracture qui traversent aussi bien l'Occident moderne que l'islam lui-même. Bon, il suffit de voir l'espèce de guerre civile gravissime et sanglante entre chiites et sunnites, entre les djihadistes et les autres tendances de l'islam. Donc on n'a pas affaire à une guerre entre des civilisations distinctes, mais à une guerre civile interne à une civilisation.
Qu'est-ce qui serait un réel choc des civilisations, alors ? Ce serait entre quoi et quoi ?
Je n'aime pas du tout cette expression, mais il y a des civilisations différentes de la civilisation islamo-occidentale. Bon, l'Inde, par exemple, c'est un monde totalement différent, qui n'a aucune référence à la pensée grecque classique, qui n'est pas monothéiste, qui a une toute autre conception du rapport aux animaux, du rapport à l'inégalité entre les hommes. C'est une autre civilisation.
On nous dit souvent que ces terroristes, ce sont des nihilistes.
Alors nihilisme, bon, ça c'est une chose qui me fait beaucoup sourire, parce que au sens strict, au moins depuis Nietzsche, nihiliste signifie quelqu'un qui ne croit en rien, nihil en latin. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que des gens qui sont prêts à tuer et à se faire tuer au nom de leur croyance, est-ce qu'on peut dire que c'est des gens qui ne croient en rien? Les mots doivent avoir un sens, on ne peut pas dire n'importe quoi.
Alors, dernier poncif, on ne peut pas tous les citer, il faut quand même lire le livre. On a deux discours. On a ceux qui nous disent que le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam et le corollaire de ceux qui disent, à l'inverse, que le djihadisme, ça serait le vrai visage de l'islam. Vous dites que ces deux propositions sont fausses.
Tout à fait. C'est un peu ainsi que je me situe dans le débat actuel, qui est un débat très, très plombé, un débat difficile. On s'invective beaucoup. Bon, d'un côté, il y a la thèse de ceux qui disent que ça n'a rien à voir. Bon, c'est une thèse fausse de toute évidence. Les principales références du djihadisme, c'est le Coran, c'est les hadiths, les paroles du prophète, c'est donc l'islam. C'est un courant de l'islam. Un courant assez terrifiant, certes, mais un courant interne à l'islam. On ne peut pas le dénier comme beaucoup de gens le font. Bon, deuxièmement, il y a la position inverse, ceux qui disent que ce serait la vérité de l'islam, et donc ça conduirait à voir dans tout musulman, quel qu'il soit, un terroriste en puissance. Je pense que c'est faux aussi. Donc ma position est très simple. D'un côté, le djihadisme a tout à voir avec l'islam, mais il n'est pas la vérité de l'islam. Il prétend défendre cette religion, combattre pour elle, tuer pour elle, mais en même temps, il la défigure.
On sait maintenant à peu près ce que le djihadisme n'est pas, donc il reste à savoir ce qu'il est. Et la thèse que vous défendez dans ce livre, c'est que le djihadisme serait le fruit d'une désincorporation de notre société. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors là, c'est une question un peu complexe. C'est une expression que j'emprunte à Claude Lefort, qui est un grand penseur politique, qui a beaucoup réfléchi sur le totalitarisme nazi et surtout stalinien. Alors pour lui, il part du constat que toutes les sociétés d'autrefois, d'anciens régimes, sont des sociétés qui sont constituées sous la forme d'un corps collectif, à partir d'une image du corps dont la tête est représentée en général par le souverain, par le roi, par le prince, l'empereur, le calife, et ou parfois, dans le cas de l'Église, par la figure du Christ, par une figure divine. Or, les révolutions des temps modernes, nous apprend Lefort, les révolutions démocratiques des temps modernes ont amorcer un processus de destruction, d'auto-décomposition de ce corps politique. C'est ce qu'il appelle la désincorporation. C'est-à-dire que la société se détache de la figure du corps total, les individus eux-mêmes perdent leur appartenance, leur fusion dans le corps total, ils cessent de se concevoir comme des organes de ce grand corps, totalement solidaires des autres organes du corps. Alors il y a un élément positif, très positif dans cela. C'est-à-dire que la démocratie nous fait avancer dans l'égalité, dans la liberté. Et en même temps, il y a aussi un revers.
Mais en quoi est-ce que le salafisme, le djihadisme, serait une réponse à ça ?
Je dirais, non, c'est pas seulement le djihadisme. Oui. Je dirais, toutes les terreurs totalitaires, tous les mouvements totalitaires du XXe siècle, d'une certaine manière, réagissent à ce qui peut sembler problématique dans la dynamique de la démocratie. C'est-à-dire la dynamique de la démocratie, en détruisant les anciennes figurations du corps, produit ce que j'appelle une désolation, c'est-à-dire que les gens se retrouvent sans appartenance, sans tradition, sans inscription dans une place déterminée, ce qui peut provoquer une très intense angoisse. Et il y a un grand nombre de gens dans les sociétés démocratiques modernes qui se sentent exclus, qui ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur pour ce qu'ils sont. Et ces gens-là, sont pris dans une sorte de demande forcenée de reconnaissance qui peut passer par toute une série de déviations. Alors pourquoi l'islam ? Ça, c'est une question très intéressante. Peut-être parce que d'une certaine manière, l'islam, la religion musulmane, souffre elle aussi d'un certain déni de reconnaissance. C'est la troisième des religions monothéistes, c'est les grandes religions abrahamiques. C'est une religion qui, vous le savez, reconnaît ses prédécesseurs comme étant des révélations inachevé mais authentique.
C'est le cadet.
Voilà, c'est le frère cadet.
C'est ce que vous appelez le complexe
tout
d'Ismaël.
À fait. Absolument, le complexe d'Ismaël. Ça c'est compliqué, Ismaël, parce que c'était l'aîné, mais c'était un aîné bâtard, le fils d'une esclave. Donc il n'est pas reconnu comme le fils légitime par Abraham.
Donc il y aurait ce besoin de reconnaissance.
Tout à fait. C'est-à-dire que l'islam reconnaît la Torah et les évangiles comme étant des révélations authentiques, mais lui-même n'est pas reconnu par ses prédécesseurs. Donc il y a une sorte de déni de reconnaissance qui est au cœur même de la position historique de l'islam. Alors c'était masqué pendant des siècles et des siècles par les succès, les conquêtes militaires immenses de l'islam qui ont créé en quelques dizaines d'années un immense empire. Puis historiquement ça s'est renversé et les défaites successives et le recul de l'islam ont réveillé ce sentiment de jalousie, d'envie. Et l'envie, comme dit Spinoza, n'est rien d'autre que la haine elle-même. Une haine qui d'ailleurs se polarise très souvent sur le frère aîné, la première des grandes révélations monothéistes, les deux cadets considèrent souvent comme étant un frère aîné qui a usurpé le droit d'aînesse, qui a capté pour lui tout l'amour du père. Donc la haine anti-juive, la haine antisémite est au cœur aussi de ce ressentiment. Alors ce déni de reconnaissance, cette souffrance qu'il y a dans l'islam, dans la position historique de l'islam, elle peut, et à mon avis c'est ce qui se passe aujourd'hui, elle peut rejoindre ce déni de reconnaissance, cette demande déçue de reconnaissance que l'on voit monter chez les exclus, chez les humiliés de nos sociétés démocratiques. Donc il y a la fusion d'une souffrance sociale et d'une blessure symbolique. Et c'est cette fusion explosive qui peut produire adhésion au djihadisme.
Alors vous venez de citer les autres monothéismes, judaïsme et christianisme, ce qui est propre à ce qui est commun à ces trois religions, c'est quand même qu'on a remplacé le sacrifice humain, à un moment donné de l'histoire, par le sacrifice animal, voire par la prière. Et aujourd'hui, le djihadisme revient au sacrifice humain, en fait, soit en égorgeant des innocents, soit en se faisant exploser soi-même, l'auto-sacrifice. Est-ce que c'est une forme de retour au paganisme ancestral ?
Alors, paganisme, c'est un terme qu'on peut discuter, mais c'est certain que les trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam, se réfèrent toutes à un récit fondateur, qui est le récit du soi-disant sacrifice d'Abraham, la Akeda d'Isaac, comme nous disons, qui n'est pas un vrai sacrifice, puisqu'il a été interrompu par un ordre divin. hein, ne fait pas de mal à l'enfant. Mm. Donc ce sont trois religions qui sont nées dans le refus du sacrifice humain. Mm. Bon, alors on a cherché différentes manières de le remplacer par autre chose. Le judaïsme était le plus loin, je pense, dans la sublimation hein, du sacrifice sanglant, puisque bon, après la destruction du temple, comme vous le savez, les sacrifices sont remplacés par l'étude de la Torah. Bon, là, il y a une symbolisation, une sublimation qui était très très loin de cette direction. Le christianisme, ça passe par l'Eucharistie, donc un sacrifice symbolique dans lequel le pain et le vin remplacent la chair et le sang du Dieu sacrifié. L'islam, lui, maintient un sacrifice sanglant, mais une fois par an. C'est le sacrifice du mouton, le jour de l'Aïd el-Kébir, qui commémore le sacrifice du bélier par Abraham. Donc une seule fois par an et un animal. Donc il y a un effort séculaire, depuis presque plus de 2000 ans, de ces trois grandes religions, pour essayer de sublimer, de dépasser, de contenir la violence sacrificielle qui est celle des religions les plus archaïques.
Bon. Et puis, retour au sacrifice humain, ouais. Finalement. Qu'est-ce qui se passe ?
Donc, ce qui est sacrificiel dans le djihadisme, c'est ce que j'appelle l'autosacrifice. C'est ce qui se passe lorsque un djihadiste se fait exploser pour tuer le maximum de victimes autour de lui. Mmh. En se faisant exploser, il pense que, comme martyr, il va aller directement au paradis, il va aller directement vers son Dieu. Et donc là, il présente son propre corps comme offrande sacrificielle.
Oui, c'est intéressant parce que vous montrez qu'en se faisant exploser, il se désincorpore ici, sur Terre, mais dans un but plus haut, entre guillemets, qui est de retrouver une intégrité
tout à fait
dans l'au-delà.
Oui, quand on lit le Testament ou les déclarations de certains djihadistes, ça dépend des cas, mais on trouve très souvent cette idée qu'en se faisant exploser, ils espèrent atteindre une sorte de, après la mort, une résurrection, un corps glorieux en présence de leur Dieu. Donc quand Mohamed Merah ou d'autres djihadistes disent qu'ils préfèrent la mort à la vie, il faut entendre autre chose. Il faut entendre qu'à notre vie misérable en ce monde, ils préfèrent la vie éternelle dans ce qui est pour eux le paradis.
Un dernier mot, on ne peut pas ne pas parler du conspirationnisme. Qui est, vous le montrez, une réponse à cette désincorporation sociale. Pourquoi est-ce que ça va de pair ?
Oui, disons que c'est une question complexe. Hein. C'est-à-dire que je pense que la haine et la rage des gens a besoin d'avoir une cible. Mmh. Or, le problème des sociétés démocratiques, ce sont des sociétés qui tendent à effacer la figure de l'ennemi. C'est très net, bon, on voit très bien ce qui s'est passé après la fin du communisme, la chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS. C'était ce grand épouvantail qui polarisait l'angoisse et la rage et la haine de l'Occident a disparu. Donc la haine se retrouve sensible. Mmh. Alors comme l'ennemi a disparu, il est tentant, sur le plan du fantasme, hein, il faut bien s'entendre, c'est un fantasme, il est tentant d'imaginer que l'ennemi a disparu parce qu'en fait il est caché. Et donc on a affaire à un ennemi dissimulé, un ennemi diabolique qui conspire dans l'ombre pour s'emparer du pouvoir de toutes sortes de façons. Et là, ça recouvre de très très anciens schèmes que j'essayais d'analyser. En fait, c'est la figure du diable. La figure du diable, ou ce que j'appelle l'anti-messie, ce que les chrétiens appellent l'antéchrist, ce que les musulmans appellent le dajjal, et qui n'est pas présent dans le judaïsme, c'est sans doute pas un hasard. Donc la figure d'un être diabolique qui, à la fin des temps, va s'affronter au Messie dans une grande bataille eschatologique, une bataille finale qui verra la victoire ultime des forces du bien. Donc il y a une dimension profondément messianique et apocalyptique dans le djihadisme. Et là, on a le nœud qui explique, par exemple, que les protocoles des sages de Sion, ce célèbre faux antisémite qui était le livre de chevet de Hitler, soit devenu un best-seller dans le monde arabe.
Merci beaucoup, Jacob Rogozinski. Djihadisme, le retour du sacrifice aux éditions Desclés de Brouwer. Au revoir.
Merci.